du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous avons été frappés d'une idée.
Ah bon ?
Oui, nous avons décidé de passer à l'acte et de concrétiser un projet que nous avions depuis très 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 longtemps. Il s'agit d'évoquer un personnage très compliqué, à l'histoire très compliquée.
Mais alors, qui vaut tellement la peine, comme homme, comme musicien ?
C'est un personnage historique et un des principaux même, car il se trouve dans les origines. Il s'agit de M. Ferdinand Joseph Lamothe.
Ah, on le connaît un tout petit peu mieux comme Jelly Roll Morton.
Sur ce surnom de Jelly Roll, nous avons eu l'occasion de vous donner toutes les explications nécessaires il y a quelque temps. Et à cette heure de grande écoute, nous n'y reviendrons pas.
On va quand même commencer par quand il était tout petit.
Et justement, comment peut-on passer de Lamothe à Morton, je vous le demande.
Eh bien, d'abord, il faut savoir que sa mère s'appelait Louise Monette.
De son nom de jeune fille.
On ne peut pas être plus française. Hein. Et son père, Édouard Lamothe. On ne peut pas être plus français comme nom.
Son père était entrepreneur de charpente et de démolition. Il faisait les 400 coups. Et un jour, sa femme Louise en a eu ras-le-bol. Et Jelly Roll raconte d'ailleurs qu'elle a mis la main sous son menton. Tu vois comment on dit ras-le-bol. Voilà. Et elle l'a foutu dehors.
Et puis, bien sûr, parce que c'était une jolie femme, elle a retrouvé un successeur à son mari, Volage. Et c'était un monsieur Mouton. On ne peut pas trouver plus français.
Alors là, nous nous rapprochons de Morton, parce que de Mouton à Morton, il n'y a qu'une lettre. Tu transformes le U en R et la blague est faite.
Jelly Roll, en ayant un peu assez de se faire traiter de Frenchie à cause de son nom, de Mouton, il en a fait Morton.
C'était son nom d'artiste.
Jelly Roll n'a parlé que français jusqu'à l'âge de 11 ans.
Ah, c'était une famille totalement francophone, comme il y en avait beaucoup. On s'en doute pas assez d'ailleurs, mais la Louisiane était peuplée de gens qui parlaient vraiment français, comme langue principale.
Quant à la date de naissance de Jelly Roll, on n'en est pas franchement sûr.
Ni du lieu d'ailleurs. Plusieurs hypothèses se confrontent. Nous avons retenu la plus vraisemblable en fonction de ce qu'il a raconté plus tard. Plus tard, il n'a toujours pas dit où et quand. Mais quand même, en recoupant, on peut penser qu'il est né le 20 octobre 1885 à la Nouvelle-Orléans. Et cet enfant-là, il est attiré par une seule chose, mais alors vraiment totalement polarisé, c'est la
musique.
Figure-toi que beaucoup plus tard, Jelly Roll a appris que son père jouait du trombone. C'est peut-être de là qu'est venu le virus de la musique.
Au début, ben, on lui donne un petit harmonica. Hein. C'est de son âge. Oh, quelle joie!
Il a expliqué plus tard qu'au bout de quelques temps, il était devenu le pire harmoniciste de tous les États-Unis et qu'il a donc opté pour la guimbarde, dont il est devenu un virtuose. Et puis, à 6 ans, il a décidé de compliquer un peu les choses, parce que la guimbarde, c'est quand même un peu limité, et il s'est mis à la
guitare. Quand même.
Avec le concours d'un voisin espagnol. Et ça, c'est très important, parce que la trace espagnole va être perceptible dans le jeu de piano de Jelly Roll toute sa vie.
Comme quoi, les souvenirs d'enfance sont ceux qui restent le plus longtemps.
Mais juste une trace, hein, qu'il appelait la Spanish Touch.
Et à 7 ans, il a la chance de rentrer dans un orchestre à cordes. La Nouvelle-Orléans, elle bruisse de mille musiques, du classique, de l'espagnol, comme on vient de le dire avec le voisin. C'est un pays qui est véritablement en ébullition musicale.
Et donc, il y a tout un tas d'événements culturels. Il y a un opéra français. Et justement, c'est là que le jeune Jelly Roll, à 10 ans, tombe en arrêt devant le talent d'un pianiste concertiste. Alors là, il est complètement bluffé et il décide de se mettre au piano.
Et alors, bien sûr, il a quand même la possibilité d'apprendre avec des professeurs. Ça, c'est de la chance.
Quoi qu'il explique quelque part que le talent pédagogique des professeurs en question est particulièrement variable. Tous les dimanches, les journaux publient les nouveaux morceaux qui viennent d'arriver sur le marché avec les partitions imprimées dans le journal.
Ça, c'est de la chance. Comme bien sûr, il sait lire la musique, c'est son plaisir du dimanche. Il a envie de jouer les airs qu'il entend, les airs à la mode. Et là, il y a une chance.
Dans ces airs-là, il y a du ragtime.
Ah là là.
Et ça, on y reviendra plus loin, mais le ragtime, ça a quand même profondément marqué Jelly Roll à ses débuts, et ça restera d'ailleurs dans le fond de son jeu. Et donc, bah, il finit par travailler tout seul, ce genre de choses, et puis, comme c'est un type extrêmement indépendant, qui fait déjà pas mal les 400 coups, et dont on sait jamais très bien à quelle heure il va rentrer à la maison, j'ai l'impression que là, c'est un sacré galapia, hein.
Et oui, et il décide que finalement, il peut vivre de sa musique. Et à 12-13 ans, il trouve une place de plongeur dans un restaurant, mais il y fait aussi du piano.
Et surtout, il quitte l'école. Ça l'intéresse tellement pas qu'il quitte l'école. Et donc, bah, il ne rentre plus à la maison que pour y dormir, hein, je suppose. Pas beaucoup, d'ailleurs.
Oui, peut-être faire un petit bisou à maman, mais...
Voilà. C'est le genre d'enfant qui ont dit « ce n'est pas un hôtel ici !» Et comme il porte très bien la toilette, il est très élégant, il est remarqué comme pianiste, et bien il est coopté comme porte-étendard par un des clubs de la ville. Alors les clubs de la ville, il y en a des dizaines. Hein. Et alors ils se concurrencent tous en participant à des parades.
Pratiquement chaque week-end.
Ah ben ça n'arrête pas. Et alors donc, parades et reparades, et puis il y a les enterrements, les pique-niques, enfin tout ce qu'on a raconté mille fois sur la Nouvelle-Orléans de l'époque.
C'est une vraie vie sociale.
Ah oui, beaucoup plus tard... Un collecteur, tu sais comme on en a eu chez nous, qui ont collecté les souvenirs et la musique, par exemple de M. Léon Lemay, le fameux violoneux.
Ah bah oui, comme je l'ai connu personnellement et que j'ai joué avec lui, j'ai plein de souvenirs que je peux raconter.
Voilà, et qui ont été pieusement notés. Eh bien là, à l'époque, il y a eu, pour Jelly Roll Morton et pas mal d'autres gens, un nommé Lomax, Alain de Lomax, qui a tenu à... faire enregistrer ses souvenirs à Jelly Roll Morton. On connaît beaucoup de choses comme ça, des premiers temps du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et dans ses souvenirs, Jelly Roll évoque un personnage tout à fait étonnant qui s'appelait Mamie Desdoum. C'était une femme, paraît-il très belle, avec de très beaux cheveux, qui avait plusieurs doigts amputés et qui jouait le blues avec trois doigts et qui le chantait en même temps. Elle ne connaissait qu'un seul morceau, mais Jelly Roll ne l'a jamais oublié et il dit que c'est ce blues-là, c'est Mamie Desdoum qui lui a donné le goût du blues. Naturellement, il a enregistré ce blues. Ça s'appelle
Mamie's Blues.
This is the first blues I have no doubt heard in my life. Mamie Desdoum. This was her favorite blues. She hardly could play anything else more, but she really could play this note. Of course, to get in on it, to try to learn it, I made myself the can rusher. 219 done took my baby away. Took my babe away. Two 17, bring her back someday. Stood on the corner with her feet just soaking wet. Her feet was wet. Stood on a corner with her feet soaking wet. Begging each and every man that she met. If you can't give a dollar, give me a lousy dime. Can't give a dollar, give me a lousy dime. I wanna feed that hungry man of mine. Thank you.
La mère de Jelly Roll meurt quand il a 14 ans.
Il est recueilli par son oncle le coiffeur, il y travaille. Et puis finalement, il se fait tonnelier.
Oui, là, il apprend à cercler les tonneaux. Il explique d'ailleurs qu'il est rapidement devenu un des meilleurs tonneliers de la ville. Et là, il hésite, mais il se rend compte à l'expérience qu'il va gagner plus d'argent en faisant le pianiste qu'en faisant le tonnelier. Donc, il laisse tout tomber pour jouer du piano, car il a de plus en plus de relations. Et il est introduit dans les établissements de plaisir et de luxe réunis du fameux quartier Storyville.
Où là, il reçoit de très nombreux pourboires.
Ah oui, là, il croule littéralement sous les pourboires. Et naturellement, tu penses, un type de 14-15 ans qui arrive, surtout quand c'est General Morton, dans ce genre de milieu, s'il a du succès auprès de ces demoiselles, dont il devient le chouchou.
Seulement, voilà, ça ne plaît pas à sa famille.
Côté famille, il a refusé d'entrer dans l'entreprise paternelle de charpente et de démolition. Et là, on peut imaginer que la famille commence à se poser des questions. Et puis un beau matin, non mais là, nous allons lui laisser la parole.
Je commence à gagner plus d'argent que je n'en avais vu de ma vie. J'ai acheté un costume neuf, un chapeau portant l'emblème de Stetson, une paire de pompes de Saint-Louis dont les bouts se redressaient. Ah, ça c'est la vérité vraie, presque jusqu'à la hauteur des chevilles. Un dimanche matin, je me ramenais du travail ainsi sapé quand je me trouvais nez à nez avec ma grand-mère qui revenait de la première messe. Elle me toisa des pieds à la tête. Croyez-moi, cette Mimi péchait avait des yeux capables de percer un trou dans une porte. « Tu as une bonne place maintenant, Ferd. Tu gagnes beaucoup d'argent ?» Comme j'étais très jeune et très nigo, je lui dis ce que je gagnais. Ma grand-mère me lance un regard à la française et me dit en français « Ta mère est morte. Elle ne peut plus rien pour ses petites filles maintenant. Elle m'a confié Ahmed et Minnie. Je m'efforce d'en faire des filles honnêtes. Un musicien n'est qu'un clochard et un propre à rien !» Je ne veux pas de toi auprès de tes sœurs. Va-t'en.
Rupture, et pour tout dire, il semble que Jelly Roll Morton n'ait plus jamais refréquenté sa famille par la suite. Pour illustrer cette occupation tout à fait intéressante de ce jeune pianiste, nous allons vous passer le morceau dont il se souvenait, qui servait à accompagner dans ce genre d'établissement les numéros offerts par les demoiselles. Une sorte d'ancêtre du striptease, si vous voulez, mais alors sur un rythme tout à fait étonnant. Ça s'appelle « The Naked Dance ».
Thank you.
c'est un homme, ou plutôt, c'est un très jeune homme qui veut voir du pays. Et il commence à voyager.
Ah oui, il ne tient pas en place. En plus, avec son métier de pianiste, ses capacités, le fait qu'il porte beau, eh bien, on l'engage.
À partout où il passe, il trouve du travail de pianiste. Puis de temps en temps, quand il n'en trouve pas tout de suite, eh bien, il passe par les sports auxquels il excelle.
En particulier, le jeu.
Ah oui.
Ah oui, là, il joue beaucoup, hein.
Au dé et aux cartes, c'est un véritable virtuose, c'est un pro, il fait absolument ce qu'il veut au poker. Et puis, il y a aussi un sport, alors là, un vrai sport, où il est très très fort.
C'est le billard, c'est quand même un type incroyable, parce qu'il joue du piano, il excelle, il est un des meilleurs, absolument époustouflant. Il joue au billard, il est tout de suite dans le top.
Ah ben, au billard, c'est très simple, il a le niveau pro. C'est un vrai professionnel du billard, et naturellement, quand il arrive quelque part, personne ne sait qui c'est. Hein, alors il fait un peu maladroit, là. Et puis les paris montent, et puis quand les enjeux sont bien maximum, alors là, il sort...
Le grand jeu.
Voilà, ses meilleurs coups, et là, hop, il empoche, et là, il est tout content, et puis voilà, puis il va jouer du piano, ma foi. Entre quelque chose comme 1902 et 1915. Voici New Orleans, Biloxi dans le Mississippi, New Orleans, Memphis dans le Tennessee, Jacksonville en Floride, Saint-Louis dans le Missouri, Kansas City. Il est tellement bien Kansas City qu'il composera un morceau qui s'appelle Kansas City Stomps. Puis il va à San Francisco et puis après un bout de temps en Californie, 1915, le trouve à Chicago. Il ne va pas rester longtemps. Il repart. Los Angeles, le Canada, l'Alaska, le Wyoming, puis va dans le Colorado, et puis il repasse par la Californie. Oui. Puis il va au Mexique. Voilà. Et là, il se passe quelque chose. Nous y reviendrons.
Il voyage en train, L'avion, c'est pas encore maintenant. Hein. En voiture, parfois, dans des conditions avec des espèces de cars brinque-ballant. Mais il y a quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est le bateau. Ce qu'on appelle les steamboats.
Eh oui, les bateaux à vapeur qui sont connus entre autres sur le Mississippi, mais qu'on trouve un peu partout dès que c'est navigable.
Et comme les musiciens peuvent jouer pour payer leur voyage, il y a toujours des spectacles sur ces steamboats.
Et des pianos.
Facile pour lui.
Donc je pense que c'est le mode de transport qui lui a laissé le meilleur souvenir, puisque c'est d'ailleurs le seul qu'il évoque dans son répertoire, et le morceau, vous allez entendre, s'appelle « Naturellement ».
Steamboat Stomp.
Man, come on, let's catch that boat. We'll be late.
Well, we got plenty of time to catch that boat. I gotta get another half.
Getting back at me, don't even know how to carry a mule without letting his legs hang down, you little tadpole.
Nous sommes en 1923, il est arrivé à Chicago et il va y rester un certain temps, plusieurs années. C'est l'époque des premiers disques et tu sais qu'avant, c'était les rouleaux perforés, les choses comme ça. C'est comme ça qu'on connaît le ragtime d'ailleurs. Mais le disque enregistré par des Noirs pour des Noirs, ça commence réellement au début des années 20 et 1923 est la première grande année. Il y a beaucoup de musique à Chicago.
Et là, il rencontre un orchestre de jeunes blancs. Originaire de la Nouvelle-Orléans. Et là, il va jouer avec eux. Cet orchestre s'appelle les New Orleans Rhythm Kings, en toute simplicité.
C'est un orchestre intéressant. Comme tu l'as dit, ce sont des jeunes blancs venant de la Nouvelle-Orléans, donc qui se sont inspirés et qui connaissent le style. Ils sont même nés dedans. Hein.
On peut dire, même s'ils ne sont pas très connus maintenant, que c'était le meilleur orchestre blanc d'alors. Hein.
Oui, et on peut considérer, à les entendre, que les New Orleans Rhythm Kings sont très supérieurs à l'original Dixieland Jazz Band qui a enregistré le tout premier disque de jazz en 1917. Mais ceux-là, pour moi, ils sont vraiment un niveau au-dessus parce qu'ils ont pigé beaucoup plus de choses. Et en particulier, le trompettiste qui s'appelle Paul Maas et le clarinettiste qui s'appelle Léon Ropolo. Tu remarqueras qu'à Nouvelle-Orléans, c'est la communauté italienne qui a mordu dans cette musique-là. Hein.
Oui.
Avec Jelly Roll au piano, qu'ils ont coopté pour une séance sur invitation, enfin, ils sont bien plus ensemble, ils enregistrent entre autres une composition de Jelly Roll qui s'appelle Millenberg Joyce.
Ces studios Genette pour Jelly Roll, il y a quelque chose d'émouvant. C'est qu'il enregistre ses premiers solos de piano, là.
Et nous allons entendre le premier disque de Jelly Roll Morton s'appelle
New Orleans Joyce.
Thank you.
Bien sûr, ce New Orleans Joyce que vous avez certainement beaucoup apprécié, en tout cas nous l'espérons, c'est pas le seul morceau qu'il ait enregistré à cette époque, au tout début du disque donc, chez Jeannette. Il y a d'autres morceaux et nous allons enchaîner avec un hommage au charme féminin.
Jelly Roll, c'est quand même un séducteur, hein?
Oula.
Et là, il y a une jolie petite serveuse californienne. Ah là là, elle est belle cette petite. Elle a des dents comme des perles.
Et un sourire ravageur.
Naturellement. Donc il appelle son morceau « The Pearls », les perles.
On se croirait en plein roman historique. Mais le morceau est très poétique. Pour moi, une des compositions les plus réussies de Jelly Roll Morton.
« The Pearls ». Thank you. Mais s'il a aimé les dents de perles de la petite serveuse, par contre, il y a une femme qui sera la femme de sa vie. Et cette femme s'appelait Anita Gonzalez. Elle l'a attirée en Californie, aussi bien côté US que côté Mexique.
Il faut vous rappeler que la Californie est coupée en deux par la frontière américano-mexicaine. Et donc, côté Mexique, il y a une ville qui s'appelle Tijuana, qui est très pratique pour beaucoup de monde. D'ailleurs, dans les romans policiers ou les films policiers qui se passent en Californie, tu as remarqué que tout le monde qui a commis une vilaine action s'empresse de prendre la route du Mexique pour arriver à Tijuana le plus vite possible. Tu as remarqué ça?
Oui. Mais...
La fille Jelly Roll l'appelle dans l'intimité « Mama Anita ». Puisque cette demoiselle est latino et que lui, il a la Spanish touch. Il y a un bout de compatibilité quand même là.
N'est-ce pas?
Et naturellement, il fait son portrait en musique. Et devinez comment s'appelle le morceau?
Mama Anita, bien sûr.
Les affaires sentimentales de Jelly Roll l'ont beaucoup amené à jouer en Californie. Il finira par s'y fixer à la fin des années 30 et c'est là qu'il va mourir en 1941 d'une crise d'asthme aiguë compliquée de problèmes cardiaques. Il faut dire qu'avec la vie qu'il a menée, les problèmes cardiaques ne sont pas véritablement étonnants.
Et au moment de la succession, on s'aperçoit qu'il y a un sac de nœuds. Parce qu'il a mis Mama Anita, légataire universelle, ce qui se comprend, la femme de sa vie. Seulement, il y en a une qui est la femme légitime. Et cette femme légitime, c'est ma belle Bertrand.
Encore une dame d'origine française, d'ailleurs, qu'il a épousée et qui, d'ailleurs, je pense, s'est occupée de lui à la fin de sa vie, pas mal. Et c'est quelque chose qui a fait du bruit, cette histoire. Et donc, il a laissé, comme tu dis, son argent. Non pas à sa femme légitime, mais à la femme de sa vie. Pourquoi?
Ah là là, c'est que cette Mabel Bertrand, c'était une femme qui était franchement pénible à vivre. Chichiteuse, jamais contente, toujours en train de protester.
Le genre faiseuse d'embarras.
Voilà.
Et maintenant qu'on lui a taillé un short, nous allons vous passer son portrait en musique par Jelly Roll Morton. Et ça s'appelle...
Fussy Mabel, ma belle la chichideuse.
À l'époque où a commencé la carrière de Jelly Roll Morton, autour de 1900 donc, une musique était très à la mode, c'était le ragtime. Le ragtime, c'est un genre musical d'origine noire et d'abord pianistique. Cette musique émanait de la bourgeoisie noire cultivée, tu sais, les gens qui connaissaient le solfège et le répertoire classique. Et ça s'entend, même si les témoignages de cette musique-là datent d'avant le disque.
Avant le disque ? Il y a eu les rouleaux mécaniques. C'était des rouleaux de papier perforé qu'on passait dans un piano mécanique. Tout ce que les gens aimaient, ils pouvaient le demander et on avait le morceau. Si bien que vous vous trouviez quelquefois dans, j'allais dire, des petits cafés ou de campagne. Le patron, c'était... un peu ouvert son porte-monnaie pour acheter le piano mécanique. Et ça attirait un monde fou.
Et oui, tu mettais une pièce dans la machine, c'était quand même mieux que le flipper, finalement. Mais c'est un peu l'équivalent. Et chose absolument géniale. Faut savoir que ces bandes étaient perforées par des pianistes qui jouaient. Le pianiste jouait et la machine perforait le rouleau. Après, ça en reproduisait le rouleau, mais c'était directement en provenance d'un pianiste qui jouait vraiment.
Qui était génial, les touches du piano, tout le monde pouvait les voir, s'enfoncer en fonction du morceau. si bien que certaines personnes apprenaient le morceau en mettant leurs doigts sur ces touches qui se soulevaient ou qui s'abaissaient.
Surtout qu'on pouvait ralentir le tempo. Non, c'était très très bien vu, hein. Je dois dire là, c'est un outil pédagogique extraordinaire qui a formé toute une génération de pianistes, et même peut-être deux. Naturellement, quand on a commencé à enregistrer les souvenirs de Jelly Roll Morton, on lui a demandé de faire une évocation de la musique de ses débuts, le ragtime. Cette musique qui vient de gens qui sont un peu imprégnés de classique, on l'entend un peu dedans. Et Jelly Roll a enregistré plusieurs plages de ragtime et nous allons vous en passer deux à la file. La première s'appelle...
Original Rags.
Et la deuxième...
The Perfect Rag. Oh, mais alors là, celui-là, c'est le meilleur. D'après ce qu'il dit.
Thank you.
impossible de terminer cette émission sans évoquer la carte de visite de Jelly Roll Morton. Il était écrit dessus « Jelly Roll Morton, inventeur du jazz ».
En toute simplicité.
Et nous ne vous mentons pas, nous en avons une.
Une vraie.
Une vraie de vraie, période new-yorkaise, avec son adresse, 131e rue, et même si vous voulez son téléphone, vous n'avez qu'à nous demander. Il faudra que le téléphone soit posé sur un bon guéridon, hein, parce que là, quand même, ça fait un bout de temps qu'il n'est plus là. Alors maintenant, pour que ce personnage prenne un peu consistance, voici l'impression qu'il a fait en 1938 à Hugues Panassier, qui était alors à New York pour réaliser une série d'enregistrements, et qui ce jour-là, 26 décembre 1938, était tranquillement en train de faire la sieste après déjeuner.
Vers 2h de l'après-midi, coup de sonnette à ma porte. Un noir d'une cinquantaine d'années entre et me dit « Je suis Morton » et me tend une carte de visite. Je lis « Jelly Roll Morton, Originator of Jazz », ce qui veut dire « inventeur du jazz ». Comment ? Vous êtes Jelly Roll Morton ? Mais asseyez-vous donc ! Et Jelly Roll n'y va pas par quatre chemins. Comment ai-je pu être si mal renseigné sur les origines du jazz ? Comment, dans mon livre, ai-je pu mentionner tant de musiciens sans importance, alors que je ne parle même pas de lui ? Comment peut-on publier un livre sur le jazz sans que son nom à lui, Jelly Roll, ne figure à toutes les pages ? Je ne peux que lui faire d'humbles excuses et lui expliquer qu'au moment où j'écrivais mon premier livre, je ne connaissais que deux ou trois de ses disques et n'étais pas assez compétent pour me rendre compte de leur valeur exceptionnelle. J'ajoute que dans mon prochain livre, il n'en sera pas de même car j'ai maintenant compris tout ce que lui doit la musique de jazz. Jelly Roll voit que je suis de bonne foi et se montre aussitôt charmant. Il m'explique qu'il est resté à l'écart des milieux du jazz, vivant à Washington depuis plusieurs années, mais qu'il va reprendre son activité, reformer un orchestre et montrer au monde de quoi il est capable. Il parle et déparle, mais il est bien sympathique. Je comprends après tout qu'il éprouve le besoin de clamer sa valeur. Personne ne s'est jamais soucié de le faire, alors qu'une foule de musiciens se sont inspirés de lui et sont devenus célèbres, et ces musiciens ne lui viennent pas à la cheville. Et puis s'il se proclame un génie, c'est avec une telle candeur, une telle absence de prétention choquante, on ne sent aucun malaise. On sourit et l'on se dit « quel phénomène !»
Eh bien oui, hein, quel phénomène. Mais tu sais, hein, mégalo ou pas, quand il disait « inventeur du jazz », maintenant, dans les livres, on cite cette carte de visite, mais on ajoute « il n'avait pas entièrement tort. Aujourd'hui, vous avez entendu des solos de piano de Jelly Roll Morton, mais il n'a pas été qu'un pianiste soliste. Il a enregistré de nombreux disques en orchestre sous le nom générique de Red Hot Peppers, un orchestre formidable. Il a aussi été un compositeur prolifique dans le répertoire de tous les orchestres de jazz. Maintenant, plus de 100 ans après la composition de certains morceaux, ils sont toujours joués. Eh bien, la musique d'orchestre, le répertoire, nous allons revenir là-dessus et ce sera le sujet de l'émission suivante. La semaine prochaine, ne la manquez pas. Et pour conclure, pour aujourd'hui, voici...
Winnin' Boy Blues, ce qui veut dire... Le gars qui gagne toujours.
Oui, c'est un morceau qui résume bien le personnage parce que Winning Boy, c'est non seulement le type qui gagne au jeu, mais c'est également en argot le type qui sait y faire avec les dames. Et ça, c'est tout à fait la synthèse de deux des multiples vies de Jelly Roll Morton.
And shake it like sweet slaving chains. Oh. I'm the whining boy. Don't deny my name. Mama, 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 look at Susan. Mama, mama, won't you look at Susan? Look at Susan. Mama, mama, look at Susan. She's out on the levee doing the double twist. I'm the whining boy. Don't deny my name. I'm the whining boy.
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.